Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. 7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Christophe Castaner.
Et merci beaucoup à vous d'être là. Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
C'est le baptême du feu social ce 12 septembre pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron. Beaucoup avant vous ont laissé des plumes dans ces affrontements, ces bras de fer avec la rue. Vous pourriez flancher vous aussi ?
Je crois que le débat social ne se mesure pas seulement à la rue et à la manifestation. Il y a eu, dans la préparation du travail sur les ordonnances, plus de 100 réunions avec les partenaires sociaux. Tout ça contribue à un climat. Moi, je suis un observateur attentif, d'abord défenseur du droit de manifestation. Et donc aujourd'hui, que la CGT notamment appelle à manifester est légitime. Et en même temps, je suis un observateur de la réalité de ce qu'il y a dans le texte.
Et vous dites, la CGT notamment, c'est pour souligner que Force ouvrière et la CFDT n'ont pas appelé à manifester. Ça vous rassure ?
Moi, je n'ai pas à distribuer des bons ou des mauvais points. Ce que je note, c'est que FO et la CFDT, qui ont des remarques à faire sur ce texte, ont décidé de ne pas descendre dans la rue parce qu'elles ont noté que ça n'était pas le coup d'État social dénoncé par certains.
Donc, ça vous rassure ?
Moi, je n'ai pas à être rassuré ou pas. Ce qui compte, c'est le travail que nous avons fait. Il y a un mandat politique, celui qu'Emmanuel Macron avait du fait de l'élection. Il avait dit très clairement qu'il réformerait le Code du travail. Il avait dit qu'il le ferait par ordonnance. Il y a une méthode, celle d'Édouard Philippe et de Mme Pénico, qui ont, à travers 100 réunions, travaillé avec les partenaires sociaux, entendu des revendications des partenaires sociaux. Et aujourd'hui, on a un texte qui est équilibré.
Alors, ce que les Français ont entendu aussi, c'est le mot fainéant. Est-ce que c'est bien habile, franchement, de donner des arguments à vos adversaires, de traiter de fainéants ceux qui, je cite, puisque le président Macron a assumé hier à 100%, ceux qui pensent qu'on ne doit pas bouger en France ?
Il faisait un discours sur l'Europe. Et sur la France.
Qui a été totalement éclipsé par son petit mot, c'est dommage.
Je ne suis pas sûr qu'il aurait été repris. Le contexte d'Irma a fait que, avant même qu'il y ait la polémique sur ces mots-là, de toute façon, on parlait assez peu du discours, sauf quelques initiés, comme Jean Quatremer, qui ont souligné la qualité du discours. Mais il ne parlait pas de tel ou tel. Non, il y a eu un décalage dans le temps du côté de l'alerte journalistique.
S'il n'y avait pas eu fainéant, avouez quand même, admettez qu'on aurait peut-être un petit peu mieux fait l'exégèse de son discours.
Je considère par exemple que quand vous avez le référendum de Maastricht, et donc un risque politique majeur marqué par les Français qui rejettent le référendum, et qu'on s'assoit dessus, comme on dit chez moi, et qu'au bout du compte, on ne fait rien et on continue notre petite politique politicienne, et qu'on méprise du coup les Français qui se sont exprimés, je pense que, effectivement, c'est de la fainéantise à minima intellectuelle. C'est aussi cela qu'on a payé.
C'était une formule mûrie, peser pour afficher sa fermeté ou c'est un mot parti trop vite comme ça arrive parfois, c'est humain.
Non mais c'était pour illustrer. Emmanuel Macron il nomme les choses.
Est-ce que c'est sa pensée profonde qu'en France il y a d'un côté les fainéants qui ne font rien et qui refusent la réforme, pas seulement ceux qui gouvernent et les autres.
Sa pensée profonde, il faut écouter ce qu'il dit. Il n'a jamais dit ce que vous êtes en train de dire. Il a dit encore hier, il est revenu sur le sujet.
Ceux qui pensent qu'on ne peut pas bouger en France, qu'on ne doit pas bouger.
Il est revenu hier, il a bien dit qu'il ne parlait pas des gens. Il parlait de la posture politique en France. Et c'est cela sur lequel, comme il n'a pas été compris, il l'a assumé. Et donc il est revenu en explication pédagogique hier. Il a souhaité revenir sur ses mots.
Culpabiliser l'adversaire, Christophe Castaner.
C'est pas l'adversaire.
Culpabiliser l'adversaire, humilier même l'adversaire. Il y en a qui ont pu se sentir humiliés. Est-ce que c'est bien habile ?
Mais attendez, c'est pas l'adversaire. Il parlait des politiques qui étaient en responsabilité ces 15 ou ces 30 dernières années. Nous ne sommes pas l'adversaire de Jacques Chirac, par exemple. Mais effectivement, je reviens sur la question du référendum de Maastricht. Nous ne sommes pas non plus l'adversaire de François Hollande. Mais on peut noter quand même que sur un certain nombre de réformes, on a pris des demi-mesure. On est habitué à prendre notre demi-mesure et c'est un manque de courage.
Vous l'auriez utilisé ce mot ? Est-ce qu'un président devrait dire ça ?
Vous savez, Madame Martichoux, il m'arrive de faire des maladresses de langage et ça crée des petites polémiques. J'en ai fait une il y a deux jours sur une maladresse de langage. Là, ce n'est pas le cas. C'est la volonté à propos de la commission de la défense où j'ai pu laisser penser qu'il y avait une hiérarchie dans les commissions, ce qui n'est pas le cas.
Il n'empêche, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et cette phrase, ce mot restera pour beaucoup une forme d'insulte. Qu'est-ce que nos auditeurs, des Français, appellent ce matin pour dire, voilà, je me sens visé.
Mais moi, j'entends aussi des Français qui pensent qu'il y a une sorte de fainéantise et de cynisme politique à laisser à d'autres le soin de régler les principaux problèmes et à mettre la poussière sous le tapis de façon systématique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la France décroche et qu'on a besoin de réparer la France.
Loi travail, suppression des emplois aidés, projet de sélection à l'université, assurance chômage, suppression des régimes spéciaux de retraite, formation, logement, vous ouvrez en effet Christophe Castaner, tous les fronts à la fois. Vous voulez noyer les ordonnances sous les réformes, c'est une stratégie.
Non, mais je vais prendre un seul exemple. Vous parlez de la suppression des emplois aidés, je ne partage pas votre mot.
En partie.
Il y en avait deux... Non, même pas. Il y en avait 280 000 qui étaient inscrits à la loi de finances qui a été votée l'année dernière en 2017 et qui s'applique, enfin en 2016 et qui s'applique en 2017. Nous les avons augmentés de 40 000.
Baisse du nombre des emplois aidés
non.
pour l'an prochain, comme l'a annoncé
évidemment,
le Premier ministre.
Alors là, on est sur
c'est
l'an prochain.
C'est quand même une trajectoire que vous
assumez. Ça, ce sera dans le cadre du budget de la fin d'année. Et nous voulons, plutôt que de donner 50 euros au-dessus du RSA, plutôt que de précariser des gens dans des emplois aidés, avec une espérance de contrat en moyenne de 10,6 mois, sans rémunération à la hauteur du minimum pour vivre, je pense qu'il vaut mieux investir sur des formations diplômantes et les amener vers le marché du travail.
Mais
c'est le choix
question,
que nous faisons.
Ma question, c'est est-ce que vous n'allez pas trop vite, trop fort ?
Oui, on ouvre un certain nombre de chantiers parce qu'il faut mettre à plat la politique du logement, par exemple, dans ce pays. Il faut assumer des choix de fiscalité qui favorisent non pas la rente, mais qui favorisent la prise de risque et donc l'investissement dans l'entreprise. Donc chaque fois que vous ouvrez un chantier, vous prêtez le flanc à la critique. J'utilise cette image de dire que dès qu'on touche à un avantage, c'est une niche ou une niche fiscale, il y a un chien qui aboie à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien pour rester tranquille, pépère ? Moi, je crois pas. Je pense qu'il faut assumer la prise de risque.
Alors...
Nous avons été élus pour prendre des risques.
Alors, deux choses. D'abord, ce que les Français constatent en cette rentrée, c'est que vous ne demandez pour l'instant que des efforts. Baisse des APL, des emplois aidés. Annonce ce matin dans les échos du rattrapage du coût du diesel sur l'essence à partir de l'an prochain. Vous vous souvenez du ras-le-bol fiscal qui a plombé le début du quinquennat de François Hollande ?
Je m'en souviens d'autant mieux que traditionnellement,
c'était
le
votre
premier
président
geste...
et vous étiez à l'époque son soutien. Ça vous guette ?
Oui, mais vous savez que le premier geste de tout gouvernement quand il arrive, c'est de faire une loi de finances rectificative en juillet et d'augmenter les impôts. On a fait le choix inverse. On a fait le choix de baisser la dépense publique de 4,5 milliards. Et sur chacun de ces centaines de millions qu'on a décidé d'arbitrer, ça a fait une polémique en disant ah non, il ne faut pas toucher à ça. Alors l'autre solution, c'était d'augmenter les impôts. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt.
Vous leur dites
dès
quoi,
le
soyez
1er janvier,
patient, soyez non, patient pour l'instant. Vous voyez les efforts à partir du 1er janvier, vous aurez pour les salariés.
Vous évoquez quelques hausses, par exemple celle sur le diesel. Elle s'appliquera effectivement dans la loi de finances de l'année prochaine. Donc si vous évoquez quelques hausses, permettez-moi de parler de quelques baisses. Celle, par exemple, des charges qui donneront plus de revenus à tous les travailleurs dans ce pays. Celle progressive d'une très forte augmentation de l'allocation adulte handicapé, du minimum vieillesse, ça n'a pas été fait depuis longtemps. Ce sera aussi effectif dès le début d'année prochaine.
Vous parliez tout à l'heure de la loi logement, et c'est intéressant parce que hier, Emmanuel Macron a annoncé une baisse des normes environnementales et sociales. Et il dit on me dira que je ne respecte pas l'environnement ou parfois le handicap, parfois ceci ou cela. Ça veut dire qu'il va y avoir une baisse des exigences en termes de normes sociales, environnementales. Par exemple, tout ce qui est normes pour aider les handicapés.
Non, moi je pense qu'on peut faire mieux avec moins de textes, moins d'empilement de règles administratives. Je vais vous prendre un seul exemple. Pour lancer une opération de construction dans un lotissement, quelquefois il faut faire 3 enquêtes publiques successives. Je pense qu'on peut n'en faire qu'une, qui va aborder l'ensemble des sujets. Quand vous faites par exemple un lotissement dans une commune avec que des maisons identiques, vous devez faire 100% des maisons qui sont aménagées sur la question pour les conditions pour accueillir quelqu'un en situation de handicap. Est-ce que du coup on ne pourrait pas imaginer d'en faire seulement 50%, tout simplement parce que par exemple, pour faire des toilettes à l'entrée de l'appartement, qui doit être accessible.
On est allé trop loin dans ces normes.
Au fond, on est passé aujourd'hui à un coût moyen de construction d'un logement social qui était il y a 10 ans de 77 000 euros à 140 000 euros aujourd'hui. C'est-à-dire que pour construire le même logement pour la même famille qui a besoin du logement social, on a quasiment doublé le prix de la construction. Donc je pense que cet empilement de normes bloque le système. Et plutôt que de construire 2 logements, on n'en construit plus qu'un.
Les normes, ça suffit ?
Eh bien, c'est un des éléments. On mène une politique un peu globale qui a vocation justement à traiter les problèmes partout où ils se nichent. Et sur la question de l'empilement des normes, c'est une façon d'immobiliser notre pays. C'est pas une façon de faire moins de droits de l'environnement, d'avoir moins d'ambition pour les personnes en situation de handicap, mais c'est simplement le fait d'être un peu pragmatique. Ce pays manque totalement de pragmatisme et notre administration, les députés, je l'ai été pendant 5 ans, ont comme culture de toujours rajouter des contraintes supplémentaires. In fine, vous ne faites rien. On est dans la stratégie de se contenter de droits réels, de se contenter des droits formels et d'oublier les droits réels.
Et donc, vous voulez, et c'est intéressant que vous nous le disiez ce matin, de nous confirmer, alléger éventuellement les normes, y compris pour les handicapés, de façon à ménager les handicapés, mais aussi favoriser la construction.
À construire si vous l'assumez. Plus de logements, y compris pour les personnes en situation de handicap.
À Saint-Martin, la partie néerlandaise a manifestement été plus efficace pour notamment protéger la population des pillages, alors qu'Emmanuel Macron arrive dans quelques heures, vers 9h je crois, à Saint-Martin. Pourquoi cette différence en efficacité manifeste entre les deux parties de l'île ? Pourquoi les Français ont été a priori moins efficaces ?
Moi, je vous laisse juger de l'efficacité. Ce n'est pas le sentiment que j'ai, mais oui, il y a eu des problèmes, mais je ne veux pas les nier. Mais vous savez, par exemple, hier, on me disait, vous rendez compte, à Saint-Martin, sur la partie hollandaise, ils ont prémobilisé 100 personnes. Et j'ai juste pu répondre qu'on en avait prémobilisé 120. Et pourtant, on a eu des débordements, mais il y en a eu aussi sur la partie hollandaise. On ne va pas s'en satisfaire. Vous savez qu'il y a même eu cette rumeur d'une prison éventrée.
Et que le Premier ministre a effectivement démenti samedi. Polémique consternante, a-t-il dit aussi ?
Oui, parce que franchement, je crois que ces pseudo-spécialistes de la gestion de crise doivent respecter les 2500 personnes qui, aujourd'hui, sont sur le terrain et bossent. Mais j'entends la colère des gens. Je ne veux pas la nier. Elle est réelle. Ceux qui ont tout perdu, il y a un effet de sidération et un choc tellement terrible qu'il nous faut apporter toute la solidarité nationale et pas des petites polémiques.
Merci Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL.
Le non-appel à la grève de FO et la CFDT montre qu'on est loin de la casse sociale avec la loi de travail, vient de nous dire le porte-parole du gouvernement. Nous avons été élus pour prendre des risques. Ce pays manque totalement de pragmatisme, c'est pourquoi nous allons aussi simplifier les normes en matière de logement. Et une précision, vous avez indiqué que dès le 1er janvier, les Français verraient augmenter leur feuille d'impôt, je pense que vous vouliez dire leur fiche de paie.
Merci de m'avoir corrigé.
C'est bien ce qui me semblait. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.